Alors on salue l'invité de la séquence interview, Bruno Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Alors le Front National ne participait pas ce matin au ce grand oral
Marine Le Pen est au Liban.
Oui.
Et par conséquent, elle ne pouvait pas y être. Jean-Luc Mélenchon non plus. Mais les organisateurs n'ont pas souhaité qu'elle soit représentée, parce que nous aurions pu dépêcher par exemple le docteur Joël Melun, qui est en charge de notre politique.
Okay. Donc il n'y a pas eu de boycott. Vous avez santé. Un programme pour
mais,
la santé.
Mais elle va répondre à un questionnaire écrit qui sera publié sur notre site et elle répondra intégralement à toutes les questions et fera toutes les propositions qui, certaines, figurent déjà dans son programme. Et notamment, par exemple, la fin du numerus clausus absurde par lequel, de façon malthusienne, nous avons empêché des jeunes Français qui avaient pourtant plus de la moyenne à l'examen de fin de première année d'accéder à leur vocation médicale. Ce qui cause une pénurie de médecins dont on se rend compte quand on, par exemple, quand on demande un rendez-vous chez un ophtalmo ou un otorhino ou un cardiologue. Moi, j'ai demandé un rendez-vous à mon cardiologue. C'était il y a 15 jours. On m'en l'a proposé pour décembre. Voilà. J'ai trouvé une autre formule d'ici là, mais il y a beaucoup d'autres propositions que fera Marine Le Pen, bien sûr.
Bruno Gollnisch, merci. On vous retrouve donc pour la séquence interview.
France Culture, midi 41. François Fillon tente donc de redémarrer sa campagne, mais voilà qu'Alain Juppé lui lance une sorte de mise en garde. Pour gagner, François Fillon doit prendre davantage en compte les attentes de tous les électeurs de la droite et du centre, affirme le maire de Bordeaux.
Oui, c'est un billet intitulé « Un choix de raison ». C'est diffusé sur le blog d'Alain Juppé ce matin. Il assure donc que Fillon peut et doit gagner, mais pour ce faire, eh bien, il doit prendre davantage en compte les attentes de tous les électeurs, y compris donc ceux qui ont voté pour Alain Juppé à la primaire. Les soutiens d'Alain Juppé sont inquiets, peut-être, d'un rapprochement entre Fillon et Sarkozy. Ils doivent se réunir aujourd'hui à Paris. On pensait, Stéphane Robert, que François Fillon avait repris la main quand même à l'intérieur de son camp. Apparemment, ce n'est pas complètement le cas.
Non, ce n'est pas anodin, cette mise en garde d'Alain Juppé. François Fillon doit gagner, dit-il, mais pour gagner, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut davantage rassembler les Français. Et donc, remanier son programme en y intégrant des propositions plus centristes, moins identifiées à droite. Bref, Juppé semble lui dire, c'est le programme de Juppé qu'il te faut, pas le programme de Fillon. Seulement ça, ça va complètement à l'inverse de la stratégie adoptée par François Fillon depuis 15 jours pour essayer de sortir de l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Stratégie qui consiste à mobiliser son camp avec un discours très à droite, l'idée étant d'espérer se qualifier pour le second tour avec seulement 18, 19, 20% des voix. Ça peut suffire pour se retrouver face à Marine Le Pen. C'est une erreur, semble lui dire ce matin à Juppé. Il faut être beaucoup plus rassembleur. Juppé fait vraisemblablement le constat que l'affaire Pénélope Fillon a profondément marqué l'opinion et qu'avec ses stratégies, le vainqueur de la primaire prend un vrai risque, le risque d'être disqualifié dès le premier tour. La question désormais, c'est est-ce uniquement une mise en garde de la part d'Alain Juppé ou bien est-ce une manière de se prépositionner au cas où il y aurait la nécessité de trouver un candidat substitution?
Merci beaucoup. Stéphane Robert a signalé encore pour cette présidentielle la position de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, qui soutient Benoît Hamon, mais qui déclare qu'il pourrait voter pour Emmanuel Macron pour éviter, dit-il, un second tour entre Marine Le Pen et précisément François Fillon.
En Allemagne, le patron des sociaux-démocrates allemands, Martin Schulz, est désormais donné vainqueur dans certains sondages face à Angela Merkel pour les élections de septembre. Antoine Mercier.
Oui, il s'appuie sur un programme de gauche qui lui vaut d'ailleurs des accusations de dérive populiste. Ainsi, l'ancien président du Parlement européen s'est attaqué hier un totem de la social-démocratie allemande en critiquant les réformes d'inspiration libérale du marché du travail qui avaient été menées par l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder entre 2003 et 2005. Martin Schulz, donc, se voit du coup applaudi par la gauche de la gauche, dit Linke, qui n'exclut pas une éventuelle coalition avec le SPD après les élections de septembre. Eh bien, en revanche, à droite, dans les milieux patronaux, les critiques pleuvent. Un des responsables du parti d'Angela Merkel accuse M. Schulz de céder au social-populisme avec des propositions irréalistes et une propension à noircir la situation du pays. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il n'y a pas qu'en France que des élections qui se préparent peuvent réserver des surprises. Comment on peut d'abord expliquer que l'opinion allemande, que l'on dit en général assez conservatrice, se montre sensible finalement à la perspective d'un virage à gauche?
L'Allemagne est la première puissance économique européenne, mais c'est aussi, selon l'OCDE, le pays où les inégalités et la pauvreté ont le plus progressé. On y dénombre 20% de travailleurs pauvres et des retraités forcés de travailler pour compléter leur maigre retraite. Si le chômage y est très bas, moins de 3 millions de chômeurs, le nombre de précaires y est plutôt élevé, au-dessus donc des 9 millions. Les réformes du marché du travail menées dans les années 2000 par l'ancien chancelier Gerhard Schröder, longtemps portées comme étendard par le SPD, ont certes contribué contribuer à redresser l'économie du pays. Mais en mettant une telle pression sur les salariés et les chômeurs, le parti n'avait plus jamais gagné une élection fédérale depuis. Martin Schulz apparaît aujourd'hui comme le candidat de la rupture en ramenant le cap du Parti social-démocrate vers la gauche quand il s'était déporté sur une ligne plutôt centriste jusqu'ici. N'ayant pas participé à la coalition gouvernementale, Martin Schulz n'a pas assumé la politique menée par les sociaux-démocrates depuis 2013. Il a donc les coudées plus franches qu'un Sigmar Gabriel, l'ancien chef de file du SPD, devenu très impopulaire. Une leçon que les sociaux-démocrates européens doivent désormais comprendre. Quand vous êtes de gauche, les électeurs attendent de vous une politique de gauche. Comment incarner la rupture? Martin Schulz n'hésite pas à parler d'erreurs faites par son parti et qu'il est temps aujourd'hui de les reconnaître pour les corriger. Le candidat SPD à la chancellerie a promis un rallongement de la durée des allocations chômage, davantage de retraites garanties ou encore la quasi-suppression des contrats courts à durée déterminée au profit de CDI. Alors qu'Angela Merkel se retrouve quelque peu empêtrée avec son aile droite et les nationalistes sur les problèmes de sécurité et d'immigration, Martin Schulz pourrait lui retrouver une possible coalition avec la gauche radicale allemande Die Linke, et en y rajoutant les écologistes, voilà comment la balance pourrait pencher à gauche en Allemagne aux prochaines élections.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. En Israël, c'est le point d'orgue d'un procès qui a profondément divisé le pays. Un tribunal militaire israélien condamne à 18 mois de prison un soldat, Elor Azaria, qui est accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien qui avait été blessé. Le soldat, membre d'une unité paramédicale, avait été filmé le 24 mars 2016 par un militant pro-palestinien d'une ONG israélienne, alors qu'il tirait une balle donc dans la tête du Palestinien gisant au sol, qui venait d'attaquer au couteau des soldats israéliens. C'est Marie Semelin qui est sur place.
C'est une peine clémente qu'ont choisi les juges avec ses 18 mois de prison, alors que le procureur avait requis entre 3 et 5 ans et qu'il encourait une peine maximale de 20 ans pour homicide. Mais les avocats de la famille viennent d'annoncer qu'ils allaient faire appel et Elor Azaria est resté impassible à l'annonce de la décision. Elor Azaria, qui était d'abord arrivé tout sourire et sous les applaudissements de la petite salle du tribunal dans l'enceinte surprotégée du quartier général de l'armée à Tel Aviv. Les juges l'ont dit, Elor Azaria a violé les règles de l'armée et ses valeurs. Il a achevé sans raison le Palestinien Abdul Farah al-Sharif. Mais ils ont aussi pris en compte le manque de préparation du soldat face à une attaque au couteau et le sort de la famille très affectée par ce procès. À l'extérieur du bâtiment, ses soutiens sont venus en nombre comme aux autres étapes de ce procès pour crier « Elor est un héros » et pour réclamer sa grâce comme une partie de la classe politique israélienne, au premier rang duquel le premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que plusieurs de ses ministres de la droite nationaliste. Car Elor Azaria n'est pas simplement un soldat jugé pour avoir tué un homme mais le symbole de ce qui oppose deux Israël. D'un côté, le chef d'état-major qui a défendu depuis le début une condamnation pour l'exemple et de l'autre, les deux tiers des Israéliens qui souhaitaient, selon un sondage de janvier, le voir remis en liberté.
Une condamnation qui est jugée comme un feu vert au crime des soldats israéliens, c'est ce qu'affirme à l'instant le porte-parole du gouvernement palestinien.
Midi 48 sur France Culture. L'épisodie de grippe aviaire dans le sud-ouest. Le ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin l'abattage des 600 000 bêtes que compte encore le département des Landes, premier producteur de foie gras en France.
Voilà, il s'agit effectivement de canards. Le ministre doit se rendre tout à l'heure à Mont-de-Marsan pour y rencontrer les éleveurs et des producteurs de foie gras, des agences des autorités sanitaires du département. Valentine Letesse, bonjour.
Bonjour.
600 000 canards, donc ils vont être tués, abattus. Comment est-ce qu'on en arrive là?
Eh bien, personne n'était préparé à combattre un virus de cette ampleur et surtout aussi vite. 171 communes touchées dans les Landes au dernier comptage. Pour comparer, l'année dernière, les éleveurs ont fait face à une grande marée. Cet hiver, le virus H5N8, c'est un tsunami de 15 mètres. Plus virulent, plus rapide. Les zones de protection de 5 et de 10 km autour des élevages, première mesure du processus en cas de grippe aviaire, ont fonctionné 3 semaines. Pourtant, elles ont été mises en place quand le virus est repéré début décembre. L'abattage curatif, l'extermination des canards contaminés sur place a commencé le 10 du mois dans les Landes et l'abattage préventif des canards sains en abattoir le 4 janvier. Mais la souche a été capable de se développer en quelques heures et de faire des bonds de 15 km du jamais vu d'après les éleveurs et les services vétérinaires. Problème supplémentaire, aujourd'hui il n'y a ni vaccin ni de solution valable pour traiter toutes les souches du virus.
Et comment on va les tuer ces canards?
Eh bien l'annonce de Stéphane Le Foll étant de ce matin, il n'y a pas encore de réponse officielle. Mais au cours des différentes grippes aviaires, judiciaire, le processus pour les canarsins, c'est de passer par la chaîne d'abattage classique, c'est-à-dire l'électrocution avant leur commercialisation. Et lorsque les animaux sont contaminés, ils sont directement envoyés à l'écarissage. Il y a plusieurs pistes possibles, l'incinération par mesure de précaution, puis leur transformation en graisse destinée à carburant ou leur transformation en nourriture animale.
Valentine Letesse, merci beaucoup. 12h50 sur France Culture, la séquence interview avec Bruno Gollnisch, donc député européen Front National. Monsieur Gollnisch, vous préfériez avoir affaire à qui au second tour ?
Ce n'est pas à nous de choisir, ce sera au peuple français. Je crois que si c'est Monsieur Macron, ce sera le vrai débat entre le mondialisme en quelque sorte et puis la défense des identités particulières et notamment des identités des indépendances nationales. Mais si c'est un affrontement contre Monsieur Fillon, eh bien ça sera aussi fort intéressant parce que je ne pense pas que la gauche va se déplacer pour voter Fillon comme elle a fait en 2002 pour voter Jacques Chirac, serait-ce en se bouchant le nez.
Christine Monclat.
Oui, bonjour Bruno Gollnisch. Il faut convaincre les électeurs de droite, hein, c'est ça. Vers quelle droite vous voulez vous tourner ? Philippe de Villiers, les fillonistes un peu perdus en ce moment, et quels sont les arguments que le Front National peut faire valoir pour les convaincre ?
Moi, je crois qu'il faut convaincre les électeurs de droite et les électeurs de gauche. Il y a aussi quand même un certain nombre de déçus à gauche, notamment du quinquennat de Hollande, du spectacle que donne le Parti Socialiste, ou qui ne se reconnaissent pas dans les propositions de Benoît Hamon, et qui sont susceptibles de venir chez nous.
Mais ça
ne date pas d'hier. Moi, je me souviens très bien quand la Fédération du Rhône du Front National est passée de 12 à 2000 adhérents, il y avait quand même parmi eux un certain nombre d'anciens socialistes, voire communistes.
Aujourd'hui, en 2017, on voit Marine Le Pen dans son discours de Lyon, vous étiez, puisque c'est votre ville, elle a clairement orienté son discours vers la droite, c'est un programme plus libéral.
Et on
entend parler d'un rapprochement avec Philippe de Villiers, vous-même, vous êtes favorable à ce genre
je suis favorable au fait que tous les défenseurs de l'identité et de l'indépendance nationale, alors qu'ils viennent de la gauche, nous avons dans nos rangs quand même et un poste tout à fait éminent, le vice-président
Florian Philippot,
qui vient de chez Chevènement. Bon, mais que les souverainistes de droite, en quelque sorte, comme Monsieur Dupont-Aignan ou Philippe de Villiers, apportent leur pierre à la défense de nos valeurs, ça, j'en serais extrêmement heureux personnellement.
Alors vous êtes
bien
resté...
sûr. Mais je crois que le problème n'est pas tellement parce que vous dites libéral. Il faut s'entendre là-dessus. Nous sommes favorables à la restauration des libertés économiques à l'intérieur du pays, mais en revanche à un protectionnisme intelligent, un protectionnisme raisonnable qui effectivement protège notre marché intérieur de la concurrence déloyale de certains pays qui pratiquent un dumping social effréné.
Alors vous êtes resté proche de Jean-Marie Le Pen et il nous a fait savoir la semaine dernière qu'il avait apprécié justement ce virage un peu plus droitier de Marine Le Pen et qu'il avait apparemment décidé de la laisser tranquille jusqu'à la fin de la campagne, qu'il croyait peut-être même en sa victoire à l'élection. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait même se réconcilier publiquement ? Est-ce qu'elle en aurait un intérêt politique, Marine Le Pen ?
Personnellement, je souhaite cette réconciliation. J'ai toujours trouvé cette brouille, cette querelle, même si je sais bien qu'elle a aussi des raisons politiques, je l'ai trouvée désolante, y compris sur le plan d'ailleurs tout simplement affectif, et pas seulement familial.
Mais parlons politiquement, est-ce qu'elle aurait un intérêt à ce que son père se réconcilie avec elle ?
Je pense qu'il faut réunir son camp en même temps qu'on en élargit les contours.
Bon, alors on va parler maintenant de l'actualité judiciaire du Front National. Il y a eu une perquisition hier au siège du parti à Nanterre, deuxième perquisition en un an, toujours sur cette affaire des emplois des assistants parlementaires au Parlement européen. Alors là, on parle des assistants de Marine Le Pen, donc sa chef de cabinet et son garde du corps. Mais vous-même, vous avez été visé par la même procédure et l'Europe vous a réclamé
275 000 euros. Vous avez tout à fait raison, sans même que j'ai été entendu, ni moi, alors que je suis parlementaire depuis 28 ans dans cette institution, et assez respecté, y compris de mes adversaires, le secrétaire général, M. Velleux, qui est un fonctionnaire politisé agissant sur ordre de M. Schulz, l'ancien président du Parlement, dont il a été question tout à l'heure.
Vous a reproché d'avoir embauché un cadre du parti comme assistant.
N'a pas dénié me recevoir. On reproche à mon assistant, on subodore que quand mon assistant, a travaillé également pour Jean-Marie Le Pen, ce qui est tout à fait exact. Nous étions 3 députés non inscrits dans la précédente mandature pour surveiller le travail de 18 commissions parlementaires et pour émettre 21 000 votes, nous n'avons pas à rougir d'un seul. Bien sûr, nous avons travaillé en poule. Mais comme je prévoyais votre question, je vous ai apporté un constat d'huissier qui prouve
que l'huissier
est venu dans mes locaux. Il a fait un constat en présence de mon assistant par sondage au milieu de mes 600 cartons d'archives. Et avant ouverture, mon assistant lui dit très exactement ce qui se trouve dans chacun de ces cartons, ce qui prouve qu'il a travaillé.
On ne dit pas qu'il a travaillé, mais par exemple, vos assistants aujourd'hui, il y en a un qui est conseiller régional, l'autre qui est chef d'une fédération départementale en Bretagne. Pourquoi continuer à embaucher des assistants qui ont d'autres responsabilités? Pas seulement qu'ils soient militants, c'est normal.
Je vais vous donner un scoop. Nous préférons les choisir au Front National.
Chez vous, plutôt, on a bien compris. Bien sûr. Et c'est logique et ça se fait ailleurs. Mais pourquoi prendre des cadres qui ont des responsabilités ailleurs dans le parti?
Mais parce que ce sont des gens en qui nous avons confiance. C'est tout à fait évident.
Donc ce n'est pas un emploi à temps plein, assistant parlementaire.
Dans le cas, j'ai un autre assistant qui effectivement est conseiller régional. C'est pour cette raison, il a un emploi à temps partiel.
À temps partiel, donc
voilà, c'est parfaitement légal, parfaitement normal. Non, mais il faut savoir, madame, il faut savoir que c'est une persécution politique qui dure depuis 2 ans, que toutes les informations qui sont utilisées contre nous résultent de ce que nous avons donné. Et cette perquisition d'hier, ça a mort, je pense qu'il y en aura d'autres encore qui ne trouveront évidemment rien comme la précédente, mais qui permettront de pimenter la campagne électorale.
Merci beaucoup, Bruno Gollnisch, d'avoir accepté notre invitation. Pour la météo, ce sera de la grisaille et de la pluie sur une grande partie du pays, davantage de soleil. Dans le midi, des températures qui iront de 10 à 19 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Véronique Reberotte.